Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Un sujet semble agiter l'opinion et les débats, celui de l'euthanasie. Donc une commission parlementaire dite Commission Leonetti numéro 1 en juillet 2004 s'est réunie et a donné naissance à une loi, la loi Leonetti, sur la fin de vie pour à la fois améliorer l'information et encadrer les pratiques. Et puis une deuxième commission Leonetti, donc d'évaluation de cette loi, s'est réunie, a travaillé en décembre 2008 et donc a constaté que cette loi était mal appliquée et surtout mal connue. Et donc plusieurs sujets sont apparus à cette occasion-là. Un, la question de la fin de vie et des choix des malades. Deux, la pratique des soins palliatifs qui se développe mais qui ne se développe pas partout. Trois, la question de la mort à l'hôpital, qui, nous dit un récent rapport de l'IGAS, se passe mal ou pas très bien et donc mériterait d'être améliorée. Nous avons la chance et la joie de recevoir Régis Aubry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du département douleur des soins palliatifs du CHRU de Besançon. Vous êtes coordinateur maintenant du programme national de développement des soins palliatifs et depuis avril 2010, président de l'Observatoire de la fin de vie. Par ailleurs, et en plus, vous êtes professeur associé à la faculté de médecine et vous réfléchissez sur ces questions d'éthique et de progrès. Donc comment est-ce que l'éthique peut, d'une façon ou d'une autre, développer de nouveaux champs de réflexion eu égard au progrès qui se développe et en particulier au maintien d'une vie le plus loin possible. Et donc, nous voudrions, avec vous, réfléchir à cette question de cette mort nouvelle, de ces nouvelles conditions de la mort, des nouveaux choix que la médecine ouvre aux questions éthiques, et constater d'abord, et je le rappelle à nos auditeurs, que vous avez été auditionné donc, par cette commission Leonetti numéro 1, auditionné par cette commission Leonetti numéro 2, commission Leonetti numéro 2 qui, elle-même préconisait cette création de l'Observatoire des pratiques médicales de fin de vie que vous présidez maintenant, et vous avez été auditionné par le rapport de l'IGAS de novembre 2002. Donc vous êtes au cœur de ces éléments de réflexion-là, et donc votre point de vue nous intéresse particulièrement. Alors, partons, si vous voulez bien, d'un paradoxe, d'une situation qui est difficile à comprendre. Le paradoxe est le suivant. On pourrait concevoir que tout le monde souhaite mettre plus d'humanité autour de la mort, plus de soins, plus d'attention. Et pourtant, les différents rapports en question laissent à penser qu'existent des blocages. Résistance de l'hôpital quant à la diffusion et ou à la connaissance de la loi Leonetti, disparition des services et des pratiques sur les soins autour du malade et du mourant, soins palliatifs qui se font de façon inégale d'une région à l'autre. Voilà. Donc la première question, c'est pour vous, selon vous, pourquoi y a-t-il des résistances? Qu'est-ce que tout ce débat et toute cette réflexion laissent à penser quant au champ de force ou au questionnement peut-être un peu enfoui qu'il importerait de mettre en avant?
C'est une question difficile, mais j'ai tendance à penser que finalement, ces 30 ou 40 années qui viennent de s'écouler, qui ont été marquées par de formidables progrès dans le champ de la santé en général, l'amélioration des conditions de vie, mais dans le champ surtout de la médecine, ont un peu, et paradoxalement, détourné l'homme de sa propre finitude. Il me semble que dans la période de l'immédiate après-guerre, et peut-être avec l'émergence de l'antibiothérapie, par exemple, où on a pu faire disparaître littéralement des maladies mortelles, comme la tuberculose, comme toutes les maladies infectieuses, finalement, on a investi, notre société a investi la médecine de cette mission, j'allais dire impossible, mais en tout cas presque prométhéenne, de lutter contre cette tendance obligée de l'homme à aller vers sa propre mort, en imaginant qu'on trouverait toujours des parades et des réponses à ces maladies nouvelles qui apparaissent. Et finalement, la médecine s'est emparée, sans trop y réfléchir, de cette question un peu mal posée, puisqu'on occultait cette réalité, qui est celle de la finitude de l'homme, en posant la question de cette manière-là. Alors, il est vrai que les progrès fantastiques de la médecine ont pu laisser croire, jusqu'à ces dernières années, qu'on allait toujours trouver des réponses à toutes les questions, y compris les nouvelles questions qui émergeaient dans le champ de la santé. Et il est vrai, et ceci renforce peut-être, et c'est un élément de réponse à votre question, que la formation des acteurs de santé, et particulièrement des médecins, s'est petit à petit dessaisie de la dimension humaniste au plan philosophique et spirituel que comporte la fonction, la dimension soignante. Alors je peux en témoigner, les études médicales aujourd'hui, et ça n'est pas un hasard, investissent un champ de compétences qui est pratiquement exclusivement un champ d'une compétence technoscientifique. C'est-à-dire que la médecine est devenue finalement le moyen de guérir tout individu qui se présente à elle. Et au fur et à mesure que les connaissances issues du progrès augmentaient, la formation se développait beaucoup plus dans ce champ-là et occultait une réflexion finalement sur la vie. Pas simplement en termes de durée de vie, mais en termes de qualité de vie, voire une réflexion, un éclairage, qui ne doit pas être l'apanage de la médecine, mais auquel la médecine doit concourir, un éclairage sur la question du sens de la vie.
Alors, vous dites donc qu'il y aurait une mission secrète qui aurait été confiée, non explicite pour le dire autrement, qui aurait été confiée à la médecine, qui est de prolonger autant que faire se peut la vie et peut-être d'une façon ou d'une autre, à terme, d'empêcher que la mort intervienne. Mais inversement, est-ce que vous ne croyez pas que le pouvoir médical ou les médecins, de façon générale, ont toujours considéré ou de plus en plus considéré que la mort était leur problème et que donc toutes les autres questions n'avaient pas leur place à l'hôpital ? Voyez, est-ce qu'à la fois, il n'y a pas cette convergence entre ce que vous dites, c'est-à-dire cette mission confiée à la médecine, et en même temps, une forme, allez, je ne suis pas médecin, vous l'êtes, donc je me permets le mot, d'arrogance peut-être du pouvoir médical qui considère que le corps, c'est son problème. La mort, c'est un problème biologique et médical et ça ne concerne pas d'autres aspects.
Certainement. Certainement que cela participe aussi de cette réalité qu'on peut constater aujourd'hui. Vous avez parlé du pouvoir médical, hein, et c'est une question dont on discute assez souvent finalement. Je suis assez d'accord avec vous, mais je le formulerai peut-être autrement. Je dirais que petit à petit, l'exercice de la médecine est apparu comme un pouvoir et que petit à petit et parallèlement disparaissait quelque chose qui, à mon avis, est fondateur du progrès, qui est la place de l'incertitude dans la pratique. Plus le médecin aborde sa pratique comme un sujet de pouvoir, moins il investit ce champ de l'incertitude qui est un champ de progrès, me semble, puisque c'est par devers cette incertitude qu'arrive le questionnement, le doute qui est fécond, à mon avis, si on veut bien le regarder comme cela. Et petit à petit, finalement, le médecin lui-même, me semble-t-il, mais il était poussé en cela, me semble-t-il, par la société qui n'attendait que cela, le médecin a considéré que la fin de la vie et la mort entraient, en quelque sorte, dans sa logique de garagiste, de réparateur. D'ailleurs, parallèlement, la médecine évoluait dans le sens d'une médecine d'organes et disparaissait la médecine de la personne. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on le voit quand on rentre dans un hôpital, il y a des services qui sont centrés sur des organes ou des pathologies. Mais ce ne sont plus les personnes qui sont soignées, mais les organes. Vous voyez comme c'est un révélateur, me semble-t-il, de la disparition de la personne, pratiquement de l'objet du soin, dans l'exercice de la médecine.
Alors, donc, et pour revenir à cette question que vous avez abordée, qui est celle, effectivement, progrès éthique. Alors, donc, vous pratiquez, vous connaissez le corps médical. Quels sont, selon vous, depuis, disons, 20 ans ou 30 ans, les nouveaux problèmes éthiques qui apparaissent ou qui sont apparus, ou qui sont apparus, mais pas forcément au grand jour, que les médecins regardent sans vraiment toujours regarder, ces nouveaux problèmes éthiques, eu égard à la puissance ou à la capacité qu'a la médecine à pouvoir prolonger le plus loin possible la vie, même si parfois ça peut se faire dans des conditions, entre guillemets, déraisonnables, pour employer un terme qui avait été employé par la commission Lunetti. Quels sont les champs éthiques qui, selon vous, sont apparus et qui devraient être clairement à l'esprit des médecins ?
Je verrai trois champs dont il faut discuter, me semble-t-il. Un champ qui est médical, vous y faisiez allusion, c'est la production de survie. La formule est mal choisie, mais j'y reviendrai. Le deuxième champ, c'est qui est connexe de celui-ci, je m'en expliquerai, c'est la production de solitude. En même temps qu'il y a une espèce de déliaison ou de désolidarisation de notre société, on en discutera, alors que le besoin d'accompagnement augmente. Et puis le troisième problème, semble-t-il, qui doit entrer dans une discussion éthique, c'est d'inclure cette discussion dans une logique de contraintes économiques dans laquelle nous nous situons. Sur le premier aspect, on peut considérer effectivement que les progrès de la médecine, pour rester dans la médecine, je pourrais élargir au champ de la santé en général, les conditions de vie, etc., mais les progrès de la médecine se traduisent aujourd'hui par une augmentation presque impensée de la survie avec la maladie. C'est-à-dire que la médecine ne le dit pas clairement, ne fait pas que guérir, elle produit aussi une capacité à freiner l'évolutivité de certaines maladies. Je m'en explique au travers d'un exemple, si vous permettez, qui est l'exemple d'un champ fantastique du progrès, qui est le progrès dans le champ de la cancérologie, ces 10 ou 20 dernières années, et puisque c'est également une priorité dans notre pays. L'avènement, l'apparition, puis l'avènement et le développement d'une nouvelle approche qui est la chimiothérapie, permet aujourd'hui à des personnes de vivre très longtemps avec des maladies dont elles seraient mortes très rapidement, il y a ne serait-ce qu'une dizaine ou une vingtaine d'années. Et les personnes elles-mêmes qui aujourd'hui, que je vois par exemple dans ma pratique de médecin, personnes auxquelles nos confrères, les cancérologues, disent « Vous vous rendez compte de la chance que vous avez de finalement de survivre. Il y a 20 ans, vous seriez morte avec cette maladie-là. » Rétorque pour certaines d'entre elles « Survivre, c'est bien, mais vivre bien serait mieux. » C'est-à-dire qu'elles posent elles-mêmes, et ça, ce n'est pas un hasard, les personnes elles-mêmes, mais vous avez certainement discuté dans d'autres émissions des droits des personnes malades, les personnes elles-mêmes posent la question de la nécessité de la qualité de la vie prolongée. Vous voyez, émerge une nouvelle problématique qui se double parfois, tant la survie prolongée s'avère une espèce d'aporie, se double parfois d'une question sur la question du sens de la vie posée par les personnes. Quel est le sens d'une vie? Je pense à des malades atteints de maladies neurologiques chroniques en particulier. Quel est le sens de ma vie? Moi qui petit à petit ai été dessaisi de ma capacité de maîtriser mon corps, de le sentir même, d'être un corps, et qui sent même mes capacités cognitives, ma capacité à discuter, à mémoriser, à échanger, être atteinte par ma maladie. Vous voyez, ces questions se posent.
Donc vous voulez dire sur ce premier aspect, puis on abordera les deux autres, sur ce premier aspect, la question de la survie donc laisse apparaître la question du sens ou du bien vivre tel que les malades eux-mêmes commencent à l'appréhender ou à mieux le comprendre. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que cette question-là, c'est que survivre, oui, mais à quel prix ou à quel sens ou pour quel bien? C'est ça la question.
Si vous permettez, je prends un autre exemple parce qu'il est aussi assez évocateur et c'est un sujet de recherche dans notre équipe. Les progrès mêlés en médecine de l'approche des urgences, de la réanimation des malades et de la chirurgie, de la neurochirurgie et de la médecine neurovasculaire, vous voyez, des mots un peu compliqués, font que quelqu'un qui présentait un traumatisme crânien sévère ou un accident vasculaire cérébral, une hémorragie cérébrale, il y a quelques années, 5 ou 6 ans encore, et qui était sûr de ne pas pouvoir s'en sortir, a aujourd'hui des chances de s'en sortir sans trop de séquelles si l'organisation de la médecine, couplée urgence, réanimation, neurochirurgie, médecine neurovasculaire, est mise en œuvre très rapidement, dans des délais très rapides. À un coût, on y reviendra tout à l'heure, extrêmement fort. Une conséquence qui n'était pas pensée par ceux qui vivaient le progrès, c'est qu'on produit en quelque sorte aujourd'hui un nombre inquiétant de personnes se trouvant dans ce qu'on appelle des états végétatifs chroniques. C'est-à-dire qu'on amène des personnes à pouvoir survivre, je fais simple, mais survivre sans conscience, littéralement. Ces personnes qu'on qualifie parfois de légumes. Et notre société n'a pas accompagné ce... Elle ne voyait que le progrès dans le sens de la survie sans séquelles. Elle n'a pas pensé à cette conséquence impensée du progrès, pour le coup, qu'est la survie avec des séquelles majeures, une dépendance totale, puisque ces personnes ne survivent que parce qu'on s'en occupe au plan des soins de base et qu'on les nourrit. Et si bien qu'il n'y a pas de place pour accueillir ces personnes, et qu'aujourd'hui, puisqu'on n'a pas pensé cela, se pose la question, même parfois, du sens de les maintenir. Vous voyez, cet aspect un peu insoupçonné du progrès, mais qu'il nous faut analyser parce que je pense qu'on a tendance à ne présenter du progrès que sa belle façade, entre guillemets. Celle-ci est ignorée alors que quand elle touche les personnes, elle les touche gravement.
Donc vous voulez dire, et donc c'est le premier aspect de votre développement, c'est de dire qu'effectivement la question de la survie pose la question de la sous-vie aussi. Survivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer au-delà de la vie ou au-delà de l'idée que l'on se faisait autrefois de la vie, donc dépasser, voilà, et être peut-être dans des situations de frontières un peu incertaines entre la vie, la mort, en ayant perdu des éléments de la vie que les malades eux-mêmes peuvent considérer comme indispensables. Donc c'est tout ce champ-là qui constitue, selon vous, ce premier aspect non complètement saisi par les médecins eux-mêmes, sur lesquels ils n'ont pas nécessairement non plus complètement réfléchi, sur lequel il importerait de réfléchir et de faire peut-être derrière effectivement une formation pour qu'eux-mêmes puissent mieux saisir cela. Alors ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la question de la solitude. Voilà. Donc vous dites effectivement, ces situations-là mettent en avant une solitude. Alors, comment voyez-vous, vous, ce deuxième aspect, donc la, cette production de solitude produite par le progrès ?
Juste un instant pour revenir sur ce premier point. Je crois qu'il faut retenir aussi que la médecine moderne, à qui on a confié la gestion de la fin de la vie et de la mort et cette mission un petit peu de guérison ou de réparation, produit en quelque sorte aussi de la survie, mais aussi des situations complexes, génère de la complexité. Et ça pose la question de notre capacité à approcher cette complexité générée. J'insiste parce que ça fait l'objet d'une véritable réflexion, voire de proposition dans la réforme des études médicales qui se met en œuvre, mais aussi de difficultés à accepter ces réformes.
Nous observons donc une petite page musicale et nous reprenons juste après notre entretien avec Régis Aubry. Nous reprenons donc notre entretien avec Régis Aubry autour de la mort aujourd'hui. Quand vous dites situation complexe, ça veut dire, pour être simple, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une décision qui doit être prise, c'est ça que ça veut dire, une décision qui doit être prise, alors que préalablement, la décision n'était pas à prendre. C'est ça que ça veut dire.
Ça veut dire cela, et ça veut dire finalement qu'une situation complexe, on pourrait se référer à Edgar Morin qui avait abordé cette question de la complexité générée. Une situation complexe ne peut pas être abordée comme une situation médicale classique. La vision pastorienne qu'on avait de la médecine, une maladie, une cause, un traitement, est prise à défaut en quelque sorte par ces situations nouvelles créées, qu'on pourrait résumer si on veut avoir un propos un peu comparatif, à une situation extrêmement complexe, absence de réponse toute faite, nécessité finalement de décider de la moins mauvaise réponse à apporter, parfois pour la personne. Ça oriente aussi sur une nouvelle façon de travailler. C'est la nécessité de croiser des regards différents sur un sujet complexe amène parfois à prendre des décisions, ce qui est traduit dans la loi droit des malades et fin de vie, loi dite Leonetti du 22 avril 2005, par la notion de procédure collégiale en quelque sorte. C'est-à-dire comment on aborde ces questions complexes, générées par la médecine elle-même, entre guillemets, c'est peut-être en croisant des regards différents et pas simplement les regards des médecins sur des situations. Ce que disait aussi cette loi, ce qu'elle dit essentiellement d'ailleurs, c'est qu'il faut essayer d'éviter de produire ces situations complexes et de poser la réflexion en amont des situations complexes.
Donc ça veut dire à la fois collégialité, ce que dit la loi Leonetti, mais aussi, vous rajoutez, interdisciplinarité. Ça veut dire que le vivre bien, bien vivre, la demande de bien vivre, telle que vous l'avez indiqué, laisse à supposer qu'il y a des étagements de la personne qui sont mobilisés à ce moment-là et donc qui peuvent être ou qui doivent être ou qui pourraient être adressés et donc avoir des réponses séparées. Donc ça suppose, ce que vous dites là, enfin qui n'est là de rien, mais suppose qu'effectivement il y ait des interventions de personnes ou de compétences ou de producteurs de sens, pour le dire simplement, extérieurs à l'hôpital avec une forme de familiarité qui n'est peut-être pas celle d'aujourd'hui.
Tout à fait. Tout à fait. Et vous voyez, ça entraîne une espèce de changement de paradigme dans l'exercice de la médecine où finalement on avait jusqu'à ce jour confié au médecin, au travers de cette notion de pouvoir que vous disiez tout à l'heure, à lui seul, il devait résoudre tous les problèmes, entre guillemets, sauf qu'il en génère et que ce qu'il génère est beaucoup plus complexe et ne peut pas être géré par une seule personne ou un seul regard.
Alors est-ce que ça veut dire, pour revenir par exemple sur ce que dit Marie de Wenzel, sur l'hôpital, l'hospitalité qui autrefois était à la fois celle de l'âme, pour faire simple, et celle du corps. Et que peut-être on a beaucoup insisté sur le corps et un peu moins sur cette notion vieillotte, mais qui recouvre quand même beaucoup de réalité, qui est celle de l'âme. Donc vous vous dites, est-ce qu'il faut pas en revenir, parce que la question n'est pas de revenir, mais d'avoir cette double hospitalité-là et de développer ce deuxième aspect de l'hospitalité de l'hôpital.
Tout à fait, tout à fait. Et puis, il se trouve que dans l'expérience qui est la mienne, je constate que nous fonctionnons beaucoup en tuyau d'orgue. La médecine est restée très séparée de ce que l'on appelle des sciences de l'homme. Et qu'il s'agirait peut-être aujourd'hui de réintroduire une forme de transversalité dans l'approche de la question de l'homme, qui n'a pas à être confiée exclusivement aux médecins, me semble-t-il. L'équipe de recherche que je dirige comporte un philosophe, un sociologue, un médecin, des soignants, infirmiers. Et je trouve que cet échange, quand il peut se faire, est fécond, beaucoup plus fécond que si en tout cas j'avais constitué une équipe de médecins de recherche en médecine. Vous voyez, c'est aussi une invitation à repenser l'organisation même de l'approche de la question de l'homme dans notre société.
Donc là, il y a les pistes que vous indiquez d'une forme de révolution de l'hôpital autour de la mort pour ouvrir l'hôpital aux sciences de l'homme telles que vous l'avez indiqué, donc pour effectivement à la fois faire de la collégialité, mais aussi de la transdisciplinarité. Enfin, voilà. Alors, deuxième point donc, que vous avez abordé, qui est celle de la solitude. Donc, ça veut dire que les progrès de la médecine sont aussi, je le dis de façon un peu caricaturale, mais sont aussi producteurs de solitude.
Oui. Oui, finalement, je suis en train de mener quelques travaux avec l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, et à la lecture de certains travaux qui sont menés, j'ai pu constater combien une des conséquences, là aussi, à mon avis, non consciente du progrès, c'était cette question de la solitude. Je vais l'expliciter, mais ça n'est pas l'explicitation exclusive. L'augmentation de l'espérance de vie dans notre société, qui n'est pas due qu'à la médecine, qui est due à l'amélioration des conditions de vie, amène à finalement une espèce de déplacement de l'âge moyen dans notre population, amène aussi à une augmentation considérable des générations autour des 80 ans. Le nombre des centenaires, par exemple, va augmenter de façon considérable. Sauf que ce qui accompagne cette augmentation de l'espérance de vie, c'est souvent une forme de solitude. Les couples se défont aussi parce que les uns décèdent. Et en tout cas, le constat que l'on fait, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hommes et surtout de femmes âgées et seules. Vous savez, l'exemple de la canicule en 2003 était un véritable révélateur de cette question à la fois de la fragilité, à la fois de la vieillesse et à la fois de la solitude d'une partie de la population. Et on a semblé découvrir cela à ce moment-là, puisqu'un coup de chaleur, en quelque sorte une période de chaleur, suffisait, je mets des guillemets autour de mon propos, finalement précipiter vers la mort des personnes qu'on ignorait. Alors les réflexes ont été que l'on connaît, on a cherché des coupables, entre guillemets, d'ailleurs on en a trouvé, en l'occurrence il y avait un ministre qui a été jugé coupable et qui, et c'est peut-être pour cela que la chaleur a disparu, mais en tout cas la problématique était à mon sens bien visible, et je trouve qu'on a d'ailleurs peu exploité ou discuté sur cette question de la solitude, hein, puisque ces personnes, on les avait retrouvées mortes. Hein, parallèlement à cela, et là je m'appuie sur des constats que me renvoient les associations de bénévoles, parallèlement à ça, il y a une diminution, semble-t-il, du bénévolat et donc de la solidarité auprès des personnes vulnérables. Vous voyez cette espèce de paradoxe, d'un côté fabriquer une forme de vulnérabilité, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit médicale, on parlait d'une vulnérabilisation médicale, du coup, là, dans ce que nous disions, et puis de l'autre côté, constater que la solidarité nécessaire face à cette vulnérabilité se défait dans une société qui, ça n'engage que moi ce que je vais dire là, est très marquée par une vision de l'homme ou une définition du sens de la vie qui, me semble-t-il, a changé ces 50 dernières années. Je veux dire par là que l'homme, aujourd'hui, semble avoir beaucoup plus de valeur par ce qu'il fait, voire par ce qu'il produit, que par ce qu'il est en lui-même. C'est-à-dire que, finalement, quand un homme ne produit plus, plus ou moins consciemment apparaît l'idée qu'il n'est plus un homme. Et je citais les associations de bénévoles d'accompagnement, puisqu'ils ont du mal, tout simplement, à trouver des bénévoles pour accompagner les personnes qui, sans eux, pour certaines d'entre elles naturellement, mourraient ou finiraient leur vie seules.
Alors là, vous développez l'idée de la solitude dans la société, ou l'idée qu'il y a une vie en société qui pousse effectivement à l'isolement des uns par rapport aux autres. Bon, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre aspect qui est peut-être le deuxième volet de la question de la solitude, qui est celle de la solitude produite par l'hôpital. Le fait de maintenir comme ça des gens très longtemps dans des hôpitaux, n'est-ce pas aussi un moyen ou n'est-ce pas aussi un élément qui favorise cet isolement des individus ? Et d'autant plus que peut-être les capacités d'accueil des gens qui viennent les voir ne sont pas aussi optimum que l'on pourrait le souhaiter.
Tout à fait. Je pense qu'effectivement, la médecine, refusant de regarder la mort et la finitude de l'homme en face, entre guillemets, proposant toujours une forme d'agir, hein, cette logique de l'agir dans laquelle se trouvent, entre autres, les médecins d'ailleurs, mais je dis entre autres parce qu'il me semble que ça dépasse largement le champ de la médecine, les amène toujours à proposer une solution ou une réponse à une situation qui nécessiterait peut-être tout simplement que l'on se recentre sur cette question de « Eh bien maintenant, peut-être faut-il que la médecine laisse la place à l'accompagnement ». Et je crois que cette place de l'accompagnement a été évacuée, littéralement, dans une logique de médicalisation de la fin de vie et donc d'isolement de la personne. Vous aviez raison de le souligner, c'est le contrepoint de ce que je disais tout à l'heure. Et je pense qu'il y a vraiment lieu pour l'avenir, puisque nous sommes en train de générer des situations comme celle-ci, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de penser ce qu'il faudrait mettre en place. Je parlais de solitude et j'aurais mieux fait de parler d'isolement, parce que la solitude est certainement quelque chose qu'on choisit, alors que l'isolement est toujours ce que l'on subit. Et comment arriver chercher à générer dans notre société ce sentiment de solidarité et comment générer dans la médecine ce questionnement sur la nécessité de poser la question des limites. Parce que c'est finalement cela qui est aussi posé comme question.
Donc cette question de l'isolement soulève, c'est ça que vous dites, des questions éthiques nombreuses et variées, considérant surtout que l'hôpital était sans doute un lieu de passage assez rapide et que, eu égard au développement des progrès, les malades peuvent y rester très très longtemps. Voilà. Et donc, effectivement, comment aménager, c'est ça. D'où, vous avez eu ce mot fort qui laisse à penser que l'hôpital a évacué la question de l'accompagnement. Donc, développer à la fois une éthique et à la fois les conditions de l'accompagnement. Mais alors, je voulais en arriver au troisième point, qui est de dire, bon, c'est très bien tout ça. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut faire ceci, qu'il faut former les uns, qu'il faut accueillir, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Bon, nous constatons qu'il y a un nombre de centenaires qui va être de plus en plus important, donc un nombre de personnes en fin de vie ou qui sont dans une situation de plus en plus importante. Tout ça, s'accumulant les uns derrière les autres, va coûter, ou coûte déjà, et va coûter encore plus, extrêmement cher. Donc la question, troisième élément de ce champ éthique que vous souhaitez développer, la question de la contrainte économique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va se développer ou est-ce qu'on va se transformer en un pays qui gère à la fois des retraites de plus en plus repoussées et un nombre de plus en plus important de personnes qui sont en fin de vie et qui vont coûter de plus en plus cher aux vivants. Alors je le dis de façon un peu rapide, enfin, ça pose effectivement la question, disons, comment régler, voilà, c'est brutal comme question, mais comment régler sans que ça obère les vivants, les jeunes, les survivants, enfin voilà, et quel coût au pouvoir assumer.
Je pense que c'est une question essentielle qu'on a du mal à poser avec une pudeur dont je ne sais trop où elle se situe parce que la crise économique dans laquelle nous entrons ou dans laquelle nous sommes vient, qui plus est, apporter un éclairage supplémentaire sur cette question. Mais fondamentalement, je voudrais renverser un peu le propos et revenir à une question sur l'éthique du progrès. La question qui est posée, me semble-t-il, on rejoindra la question économique derrière, c'est est-ce que c'est parce que nous savons faire que nous devons faire ? Puis une deuxième question posée, elle rejoint plus, alors quand je dis est-ce que c'est parce que nous savons faire que nous devons faire, est-ce que c'est parce que nous savons que nous pouvons produire de la survie que l'on qualifie de progrès, c'est parce que nous savons le faire qu'il faut le faire, eu égard aux questions que nous avons posées tout à l'heure. Question fondamentale à mon avis, éminemment politique. Et deuxièmement, question éminemment politique aussi et qui est corollaire de celle-ci, avons-nous les moyens de toutes nos ambitions ? Quand bien même nous penserions qu'il faut tout faire, développer tous les axes du progrès, tous les champs du progrès possible. Je réponds à la question que je pose d'ailleurs. Nous savons bien que nous n'avons pas les moyens de toutes nos ambitions. C'est une interpellation aux politiques, à l'acteur politique. Finalement, ça leur envoie la nécessité peut-être, dans une société aux économies contraintes, c'est une question qui interpelle la nécessité d'opérer des choix. Et ces choix, à mon sens, ne peuvent s'opérer dans une démocratie qu'après avoir énoncé les problématiques que nous énonçons. C'est-à-dire que cette complexité dont nous parlions tout à l'heure, cette vulnérabilité dont nous parlons, mais aussi cette impossibilité, je crois, d'assumer les coûts générés par cette conséquence du progrès, doit être énoncée socialement et réfléchie pour pouvoir orienter des choix politiques. Mais ça n'est pas simple dans notre pays où le choix politique entre en contradiction avec l'électoralisme, en quelque sorte, puisque la choisir sera forcément déplaire. Et déplaire sera forcément ne pas pouvoir être élu, si je peux dire les choses comme ça. Vous voyez, il y a là quelque chose, à mon avis, d'une espèce de contrainte générée par l'économie. Dans le champ de l'éthique, on n'aime pas beaucoup parler de l'économie parce que la vie ou la santé n'a pas de prix, c'est ce que l'on dit souvent, mais je crois qu'il faut faire preuve d'un réalisme certain autour de ces questions-là et ne pas obérer cette question.
Mais pour synthétiser notre propos et puis pour conclure sur ce sujet, ne croyez-vous pas, et je rebondis sur ce que vous dites, qu'il y a là, ce que vous dites à demi-mot, une forme d'hypocrisie du politique et ou des médecins aussi, pour ne pas avoir à choisir. Mais est-ce que la question, parce que vous dites qu'il faut choisir, savoir ce qu'on veut développer, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire, bon, donc ça suppose qu'il y ait des choix. Bon, qu'on privilégie telle population par rapport à telle autre, ou telle catégorie par rapport à telle autre. Bon, est-ce que le sous-jacent, enfin, est-ce que ce qu'il y a derrière les uns et les autres, c'est pas, disons, pour le dire simplement, cette question d'en revenir ou de réaborder ou de remettre sur la table les politiques euthanasiques massives qu'on a connues pendant la guerre, pratiquées par les nazis, etc., qui consistent à dire, bon, les vieux, hop, salut, les fous, salut, voilà. Bon, vous voyez, c'est ça. Est-ce que derrière, il n'y a pas cette question-là, qui est une question impensée, qui est de dire, bon, ok, très bien, il faut faire des choix, dites-vous, mais au nom de quoi allons-nous le faire ? Et peut-être que pour éviter de se poser la question des choix, mieux vaut poursuivre cette hypocrisie qui laisse à supposer qu'il n'y a pas de choix et que bah, chacun se débrouille comme il peut.
Oui, tout à fait. Mais ce que vous énoncez est une crainte, pour ce qui me concerne. Une vraie crainte, c'est qu'à ne pas vouloir ou pouvoir se poser les questions à temps, on trouve non pas des réponses, mais des succès d'années de réponses qui seraient dans la lignée de l'eugénisme, en quelque sorte. Vous voyez, par exemple, une question importante quand on dit il faut faire des choix dans le champ du progrès, c'est pas forcément choisir entre tel ou tel développement du progrès, c'est aussi se poser des questions de fond dans une démocratie. Est-ce qu'un progrès majeur dans une démocratie ne constitue pas à l'accès égal aux soins, par exemple? Et le coût de l'égal accès aux soins ou de l'équité de l'offre en matière de soins est quelque chose qu'il faut peut-être privilégier dans une démocratie. Je pose cette question. Elle est éminemment au cœur d'une question politique. Et puis ensuite, effectivement, être conscient qu'à ne pas vouloir, à un moment donné, énoncer la situation telle que nous le faisons, énoncer les problématiques telles que nous les posons, nous risquons de tomber, à un moment ou à un autre, sur quelque chose qui serait l'équivalent de ce qu'on appelle le populisme dans certains courants politiques, c'est-à-dire il n'y a pas de questions, il n'y a pas de complexité, il y a des réponses extrêmement simples. On supprime les vieux, les fous et les mourants, et vous verrez que notre société va continuer à produire. Enfin, je suis dans une caricature,
oui,
mais enfin, l'histoire a un sens.
Oui, oui, absolument. Et donc, ça veut dire que vous dites quoi? Vous dites qu'il y a un choix, qu'il faut poser des choix, mais que le fait de poser des choix est presque impossible, et le fait de ne pas poser des choix est là aussi impossible. Et donc, vous dites peut-être qu'il faut poser ces choix-là pour éviter que des décisions populistes nous soient imposées d'une façon ou d'une autre, qui règle des problèmes que nous n'aurions pas préalablement abordés. C'est ça ce que vous dites.
Tout à fait. Et je dirais qu'entre les choix qu'il faudrait faire et la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a un temps, me semble-t-il, qu'il faut investir, qui est celui de l'explicitation publique de la problématique que nous abordons. Et je pense que quand les choses sont énoncées, les choix sont moins difficiles à faire. Il me semble que nous avons beaucoup de mal à faire des choix parce que nous n'explicitons pas une réalité que nous avons occultée dans une espèce de déni de la mort, alors qu'il trouve des explications beaucoup plus anciennes que j'ai nommées en parlant de l'après-guerre, moi, la déliaison progressive de l'homme dans son rapport à la mort, que les historiens comme Vauvel ou Fiparies ont admirablement montré, nous montre qu'on s'inscrit quand même dans une logique historique autour de tout cela.
Mais vous pensez, et puis ça sera ma dernière question, vous pensez que là vous prêchez dans le désert, soulever les questions effectivement éthiques du progrès, vous pensez que c'est possible d'amener ça sur la place publique et d'en débattre, ou que tout le monde a intérêt, les politiques, le corps médical, la société qui occulte tout ça et qui veut pas, que tout le monde a intérêt à ce que justement ça soit relégué dans les placards et qu'on en parle le moins possible?
Écoutez, moi je suis optimiste autour de tout cela. Mon optimisme, je m'en expliquerai là dans un instant, mais je m'aperçois qu'il y a un mouvement en marche. La loi à laquelle on fait référence depuis un moment, la loi droit des malades et fin de vie, mais même la loi Kouchner du 4 mars 2002, sont des lois qui témoignent d'un mouvement de prise de conscience, me semble-t-il. Les discussions que j'ai eues et que j'ai assez souvent avec Jean Leonetti me montrent que les responsables politiques, les discussions que j'ai avec la ministre de la Santé actuelle, me montrent que les responsables politiques prennent conscience de cet aspect des choses et du risque qu'il y a à rester dans une dénégation de cette réalité. Et le citoyen lui-même, me semble-t-il, n'est pas réellement, comme on le craignait, dans un déni absolu de cette question-là. Je prends pour preuve l'affluence importante qui me surprend toujours, petite activité de conférencier, mais je suis toujours surpris de voir tant de monde venir pour écouter un questionnement, parce qu'il s'agit bien d'un questionnement, sur la complexité, sur la mort. Parfois même, lorsque je me déplace, je me dis, mais qu'est-ce que les gens viennent faire à écouter un discours aussi complexe et triste? Eh bien, ils viennent, et nombreux. C'est donc qu'il y a, je pense même, une attente autour de ce discours. Et peut-être que c'est simplement ma remarque, il ne faut pas louper le coche. C'est maintenant qu'il faut énoncer ces problématiques, comme je vous le disais tout à l'heure, pour que demain, on puisse faire des choix.
Eh bien, restons optimistes et espérons effectivement que toutes ces questions-là vont d'une façon ou d'une autre émerger et qu'elles pourront être débattues sur la place publique d'une manière large, sans que les corporatismes ou les intérêts séparés n'étouffent tout cela. Régis Aubry, merci beaucoup d'être venu. Et puis, nous ferons sans doute bientôt une seconde émission sur les questions de la mort à l'hôpital. Régis Aubry, merci.